Fils unique d'une famille anticléricale bourgeoise de Nice, Jacques Love étudie le droit à Paris et devient avocat. Atteint de tuberculose, il doit se rendre en sanatorium en Suisse. Et c'est là que se produit le bouleversement qui va orienter sa vie d'une façon tout autre.
On sait l'épisode du flocon de neige. Il avait eu un accident de santé, il avait été tuberculeux pour tout dire. Et à l'époque, on soignait surtout ça par des séjours en montagne. Et c'est au cours d'un de ces séjours, alors qu'il neigeait, ce qui n'est pas extraordinaire en Suisse, il avait été saisi par la splendeur éphémère de ces flocons de neige. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ce sont ces flocons-là qui l'ont mis en route. Et c'est sitôt après cette histoire du flocon de neige qu'il séjourne à la Val-Sainte, une trappe en Suisse. Et là, la beauté, le dépouillement, tout l'incite à aller voir plus loin. Et c'est ainsi que tout commence pour lui. Tout commence par un renoncement à toutes les facilités qu'il attendait et dont il ne peut plus se suffire.
De retour à Paris, il est initié à un christianisme ouvert et intelligent. Il entre ensuite chez les dominicains. Il est ordonné prêtre en 1939. Mais il ressent bientôt l'appel à partager la vie d'un monde ouvrier dont il constate l'éloignement avec l'Église.
Il va, se laisser saisir par ce petit peuple des dockers qui font un métier terrible. La première fois où Jacques Love s'engage au jour le jour pour porter des sacs sur les quais du port de Marseille, il rencontre de la part des ouvriers un étonnement. Il n'est pas fait, il n'a pas le gabarit pour porter les sacs de 50 et 100 kilos parfois. Et il y a comme une compassion de la part de ces ouvriers qui se disent « c'est pas possible, il n'est pas taillé pour ça ». Ils se rendent compte qu'il a été plus familier des idées de l'intériorité que de la présence sur les quais de Marseille, comme c'était alors le cas. La condition ouvrière n'était pas ce qu'elle est devenue. Et au premier jour, dès le lendemain, l'étonnement des ouvriers, c'est que ce père n'est pas venu comme ça par hasard. Qu'il est là porteur de quelqu'un d'autre. Il ne formule pas les choses comme cela. Mais c'est déjà ce qui fait partie, je dirais, de l'assentiment populaire qu'il rencontre. Et non seulement il va revenir le lendemain, mais il va prendre corps dans ce monde.
Après la décision romaine de mettre un terme à l'expérience des prêtres ouvriers en 1954, le père Love part avec quelques équipiers au Brésil pour faire naître dans la banlieue industrielle de São Paulo de petites communautés rassemblées autour de la parole de Dieu.
Il s'implante au Brésil dans des conditions différentes de l'Europe, dans des pays où les ruptures n'ont pas été ce que nous avons pu connaître nous-mêmes. L'église qu'il rencontrait au Brésil, c'était l'église des pauvres qu'il cherchait. Et il n'y avait rien qui pouvait le combler plus que l'amitié de ce petit peuple simple. Et alors, il était allé là-bas, et c'est à ce moment-là qu'un des frères de la mission Saint-Pierre-Saint-Paul va connaître une fin brutale. Il est écrasé par un camion dans la jungle que sont les grandes cités en Amérique du Sud. Il rentrait de son travail pour aller célébrer là où était la communauté quand il a été écrasé par... Ça a été très, très douloureux pour Love, une expérience terrible au fond et imprévisible. On a ressenti la mort de ce frère comme quelque chose, c'était une famille qui se trouvait à l'épreuve. Et elle a continué quand même, cette famille, puis il y a encore des frères de Saint-Pierre-Saint-Paul au Brésil.
En 1968, le père Love fonde l'école de la foi de Fribourg, lieu de formation centré sur la parole de Dieu, destiné à des prêtres laïcs et religieux venus des cinq continents. Deux ans après, en 1970, le pape Paul VI l'invite à prêcher la retraite du carême au Vatican. Après des années au service de la mission, c'est pour lui le temps de l'errance, à la recherche du silence et de la prière.
La vie du père Love, à partir de 75 ans, quand il quitte l'école de la foi, elle va devenir une errance. L'errance du pauvre, c'est pas une errance, je sais pas comment dire, moi, des fantaisies qu'on a pu connaître par ailleurs. C'est très sérieux, c'est l'élargissement qu'il s'impose à lui-même. Alors il va commencer par Citeaux. Moi, je l'ai connu à Citeaux. Et c'était pas rien de voir le père Love avec tout son passé, qui balayait la cour du monastère, qui s'astreignait à vivre la vie des moines. Lui qui avait une expérience du monde entier, se retrouvait petit frère à Citeaux, c'était bouleversant en même temps. En tout cas, il n'a pas tenu à Citeaux très longtemps. Il l'a quitté pour aller dans une autre trappe. Et sitôt après, il est allé rejoindre des ermites dans les Pyrénées. Mais alors, ça, c'était la disproportion complète pour un homme de son âge, parce que ces femmes vivaient des conditions impossibles pour un homme comme lui. Et d'ailleurs, il a fallu que ses amis insistent pour lui dire « Tu ne peux pas rester là, parce que tu vas y laisser, c'était sa mère, pour aller chercher son repas du soir, il fallait qu'il descende dans des choses de montagne, il aurait pu 20 fois se rompre les os. » Alors ce sont ses amis qui lui ont fait l'obligation d'aller voir ailleurs. Et l'ailleurs, ça a été là où il est mort, chez les Trappistines.
Les proches de Jacques Love témoignent qu'il a vécu, au soir de sa vie, ce qu'on pourrait appeler une nuit de la foi. Cette nuit, partagée par les incroyants, dont il a voulu se faire proche, tout au long de sa vie de missionnaire de l'Évangile.
Love a été travaillé par des inattendus du monde moderne. Ça l'a beaucoup travaillé, cette difficulté de la foi aujourd'hui. C'est notre univers qui nous a surpris d'une certaine façon par une volonté de faire par lui-même et par lui seul.